France Inter.
Aujourd'hui, il y a du dessert.
Qu'est-ce que c'est, ce machin?
C'est une tarte aux myrtilles. Pourquoi, elle vous revient pas?
Mais ça va, pourquoi vous m'agressez?
Parce que vous regardez ça comme si c'était du purin.
Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? De toute façon, c'est pas vous qui l'avez faite, si?
Bah si, justement, c'est moi.
CO2, mon amour.
Non, le fruit est bon, hein.
C'est pas la peine de faire des ronds de jambes. Si c'est pas bon, vous avez qu'à le dire.
C'est pas bon.
J'ai toujours rêvé de faire des tartes pour mes petits-enfants. Seulement, des petits-enfants, il n'y en a pas. Ils arrivent jamais. J'attends, rien.
Si vous les accueillez avec ça, ils sont pas prêts d'arriver.
Hein. On aime toujours les tartes de sa mamie.
Exactement, c'est comme d'aller à la pêche avec son papy. La pêche, les tartes, tout ça, c'est du patrimoine.
Avec Denis Chessoux.
Enfin, moi, je sais pas si je leur laisserai manger ça, mes enfants.
Ouais, vous, occupez-vous de les faire, ça sera déjà pas mal.
Sur France Inter.
Mais en temps normal, avec ou sans Kaamelott, la tarte aux myrtilles, c'est excellent. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans CO2 Mon Amour, la nature qui chuchote à vos oreilles, avec Tilaï Ravu à la technique aujourd'hui, notre collaboratrice c'est Camille Blanès, et Xavier Pessulgia réalise l'émission. Comment ça, notre fleuron national Total Énergie, condamné pour pratiques commerciales trompeuses en raison de ses allégations mensongères portant sur son ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et se dit acteur majeur de la transition énergétique. Bon, bref, accusé de fausses promesses climatiques. Et puis quoi encore? Mon 4x4 de 2 tonnes et moi, on n'est pas d'accord, on les soutient. Eh oui, si on ne peut plus acheter, dialoguer avec des États plus ou moins corrompus, éventrer tranquillement le sous-sol des océans, forer un peu partout, mais où va-t-on? Car c'est quand même la demande du consommateur. Sans pétrole, tenez, pas de plastique, pas de pollution des rivières, des fleuves, des estuaires, des mers, et pas d'associations qui se battent contre le plastique, dont c'est la raison de vivre. Donc nous donnons une existence, une identité à nos opposants. Et puis, est-ce que vous en avez d'autres, des leaders mondiaux pétroliers comme Total sous le coude? Je disparais, et après? Un Russe, un Américain, un pays du Golfe prend la place. Alors, d'accord, en Afrique, il y a pu y avoir quelques violations des droits humains et des dommages environnementaux climatiques irréversibles. Mais aussi vouloir relancer un méga projet gazier au Mozambique, malgré un contexte sécuritaire et humanitaire alarmant, un projet qui à lui seul contribuerait à produire plus de 3 milliards de tonnes d'équivalent CO2, j'y peux rien, ça plaît aux actionnaires et à leurs petits-enfants, bien sûr. Et puis, remarquez, on a été très bien, on a renoncé à être partenaire des Jeux Olympiques car la mairie de Paris les voulait neutres en carbone. On a répondu, vous avez raison, on ne fait pas d'athlètes sans casser les Jeux. Alors pour Montaigne, le mensonge provoque la ruine de la société et celui qui ment porte la responsabilité de cette destruction. Mais comme il est toujours plus simple de mentir au peuple que de lui dire la vérité, rien de nouveau, pourquoi se priver? Et on se tue à le répéter gentiment aux scientifiques qui nous disent que nous dépassons les limites planétaires. Nous, on aime le doute. Total lave plus vert. C'était pourtant un bon slogan, hein. Mais il n'a pas été retenu du tout par le tribunal. L'empreinte carbone de la France, c'est 563 millions environ de tonnes équivalent CO2. Celui du groupe Total, fabrication et production, 590 millions de tonnes. La première mouture de CO2 Mon Amour est née avec le sommet de la Terre de Rio en 1992. La première COP s'est tenue à Berlin en 1995. La 30e arrive à la voile à Belém dans une Amazonie qui a quand même, faut le dire, beaucoup fait pour le perfectionnement des tronçonneuses. Alors le titre de cette émission pionnière dans les médias sous-entendait notre addiction aux énergies fossiles bien plus sûrement qu'un palmade ou un bec bédé avec une paille dans le nez sur un capot de voiture. Et oui, car nous sommes tous totalement dans le panier Total. À quoi j'ai envie vraiment de renoncer? À mon vélo rouge, aujourd'hui en carbone, bien mieux et plus léger que les anciens, est-ce que je vais y renoncer? Non. Et puis, comme maintenant je m'informe uniquement en regardant CNews, est-on si certain que le pétrole, le gaz, réchauffe l'atmosphère et fait fondre les glaciers, comme ça a été dit dans cette même émission grotesque sur les glaciers des Bossons la semaine dernière? Je suis sûr que c'est avant tout les vaches qui pètent à l'arrière ou rotent leur méthane à l'avant. Et qui aujourd'hui fait autant saliver les portefeuilles d'actions? C'est pas les actions des Amis de la Terre, Greenpeace, c'est de notre affaire à tous. C'est la première fois à travers le monde qu'une majeure pétro-gazière est condamnée par le tribunal judiciaire de Paris pour avoir trompé le public. Et c'est français, ça, madame. Est-on si fort quand on fort, forever, pour toujours faire fondre la glace? Allez, les enfants, on lâche l'écran à table. Venez prendre des forces, car c'est vous qui nettoierez les écuries d'Augias. D'ailleurs, je vous signale que vous retrouvez maintenant les éditos, donc à part, hein, sur l'application Radio France, France Inter. Vous les retrouvez. Je pense que d'ailleurs, je vais le nommer Total Respect, celui-là. Le reportage de terrain qui suit, alors, est garanti, mais 100% positif. Ça va nous faire un bien fou. Donc, on part à Muttersols, capitale de la biodiversité 2025. Playlist choisie par Juliette L'Orphelin, c'était Joy Crox, Somebody to You. Et elle nous dit qu'elle aime beaucoup l'Alsace. Bah, ça tombe bien puisque nous y allons en canoë.
C'est l'Isle, c'est la rivière qui traverse toute l'Alsace et qui a sûrement donné le nom à l'Alsace. Et elle se jette dans le Rhin après Strasbourg. Et donc elle fait presque 200 km parallèlement au Rhin. Et en fait, elle réceptionne tous les torrents qui viennent des Vosges. Et elle les amène au Rhin, mais après Strasbourg.
Alors c'est toujours des zones humides. Le mot ride veut dire roseau en alémanique. Donc en fait, c'est les zones où pousse le roseau. Donc par extension, les zones humides, c'est les zones où il y a une nappe phréatique. Ici, sous nos pieds, on a la plus grande nappe phréatique d'Europe, hein, partagée avec le côté allemand. C'est le Rhin souterrain. Ça crée ce paysage. Alors, là, le paysage, moi j'aime bien dire, on est à 50% ça vient de la nature et 50% ça vient de l'homme, puisque la prairie là, nécessite bien sûr une fauche au moins annuelle par les agriculteurs. Et donc on est sur un paysage qui est ouvert, avec un bocage le long des cours d'eau. On a beaucoup de cours d'eau, donc là les prairies sont parmi les prairies qui font les meilleurs rendements de prairies naturelles sans engrais. L'inondation amène chaque année des limons et donc forcément l'herbe pousse très bien.
C'est l'histoire d'un village de 2300 habitants, donc dans le Ride, qui fait de l'écologie au quotidien, sans avoir besoin d'en prononcer le nom. Refus de l'étalement urbain, création de trames vertes et bleues pour permettre aux vivants de circuler, préservation des zones de captage, autonomie électrique, enfants qui viennent à l'école à vélo. Une des premières maisons de l'écologie culturelle, début d'un réseau en France. Donc, bienvenue, roulement de tambour avec des bretzels, à Muttersols, la seule commune d'Alsace qui gagne des habitants. Ici, l'écologie n'est pas en débat, car elle se vit, se voit, apaise, rend la vie meilleure pour toutes et tous. Et la Maison de la Nature, qui fête ses 50 ans, a éduqué au vivant beaucoup d'enfants quand cela n'allait pas de soi. Alors pourquoi en fait ça fonctionne? Eh bien comme d'habitude, parce que vous avez toujours une personne un peu plus charismatique que les autres. Un homme formidable, Patrick Barbier, est un maire visionnaire, actif dans le dialogue et partageur. Trois mandats au compteur, cet ancien instit et directeur d'Alsace Nature respire sa commune, son bout d'Alsace. Et bien sûr, il est très impliqué dans la qualité de l'eau, comme vice vice-président du SDEA, qui est le plus gros syndicat d'eau d'Alsace en gestion publique, et aussi au comité de bassin de l'agence Rhin-Meuse. Donc c'est cette histoire exemplaire qui fait du bien que je vais vous raconter, dans cette région Grand Est, dans le Bas-Rhin, dans la collectivité européenne d'Alsace, et hop, on se glisse dans le canot sur l'île.
Ah, alors là, des traces incisives ou pas, là, Patrick ?
Ah, clairement, des incisives de castor. On sent très nettement les coups d'incisives qui sont très puissants. Heureusement qu'il est que végétarien, le castor, hein, parce que sinon il pourrait être dangereux. Et on voit, là, il a carrément abattu un jeune saule, probablement pour aller chercher l'écorce, là, c'est ouais. Ça qui l'intéresse. Et donc, cette famille castor a été relâchée entre 1999 et 2003 avec la Fédération Alsace Nature. On était allé les piéger en Ardèche. C'est le seul endroit quasiment en Europe où il a jamais disparu. Et donc, avec l'autorisation du ministère, on a attrapé quelques-uns là-bas et à les relâcher ici. Et aujourd'hui, il y en a plusieurs centaines. On a même un peu arrêté de les compter parce qu'ils sont présents un peu partout. Ils font des toboggans, ils font des réfectoires, ils font pas encore de barrages. Mais ça pourrait arriver, quoi. Pour l'instant, ils ont assez de territoire. Le barrage, pour le castor, c'est pour se faire un nouveau territoire. Hein. C'est pour faire monter le niveau à un endroit. Donc là, pour l'instant, ils trouvent assez de territoire, donc ils n'en font pas.
Allez, on continue notre virée.
Les convoyeurs ont eu raison des obstacles et les turbines sont finalement arrivées au chantier. C'est ici que la centrale de Muttersold sera construite. Deux cuves en béton sont déjà prêtes à recevoir les turbines. Un nouveau défi pour la commune. Grâce au 1,50 m de dénivelé qu'il crée, ce barrage va avoir une nouvelle fonction, la production d'électricité. L'eau va entrer dans un chenal à quelques mètres en amont du barrage et ressortir en aval. Entre-temps, elle aura permis de produire de l'électricité pour 120 foyers grâce aux turbines.
Toujours sur l'île, mais changement d'atmosphère. On a sorti le canot de l'eau, Patrick. Alors là, c'est intéressant parce qu'en fait, vous essayez d'avoir une autonomie dans votre commune et avec ce petit barrage, une turbine. Là.
Alors, ce qui est important déjà de dire, c'est qu'on s'appuie sur l'histoire. Ici, c'était un barrage qui date du Moyen-Âge et qui dérivait les eaux vers le moulin.
Comme il y avait plein de moulins en Alsace,
comme dans toute la France, dans toute l'Europe occidentale. Et la plupart de ces moulins ont été transformés fin du 19e, début du 20e, en petite centrale hydroélectrique. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des grands barrages qui ont été faits sur le Rhin, et donc EDF a laissé tomber les petites micro-centrales de l'île. Et nous, en 2010, on a racheté la centrale à EDF à un prix d'amis, et on l'a remis en service avec deux nouvelles turbines. Aujourd'hui, il y a trois turbines qui assurent l'autonomie de la commune au sens de l'administration, hein, c'est-à-dire l'éclairage public et l'électricité des bâtiments communaux, mairie, école, salle de sport, etc. Donc la commune, quand on vient me demander ce que je pense de la crise énergétique, j'ai tendance à répondre « Ah bon, il y a une crise énergétique, je ne suis pas au courant ». Parce qu'on est quasi autonome pour ce qui est de l'électricité. La passe à poissons qui avait été mise en place dans les années 80 et qu'on a amélioré quand on a fait la centrale hydroélectrique. Ouais. Aujourd'hui, il y a déjà des saumons qui sont remontés, hein, puisqu'on en a retrouvé à l'amont.
Alors là, je vois un petit peu plus loin aussi des panneaux solaires, ce qui fait que, oui, on peut dire que vous êtes un territoire à énergie positive, comme on disait.
Absolument, territoire à énergie positive. C'est un concept que moi, j'ai appris à connaître en Allemagne. En Allemagne, la plupart des villages qu'on voit là-bas dans la forêt noire sont complètement autonomes en énergie grâce à des petites micro-centrales, à des éoliennes, grâce à des unités de méthanisation, du photovoltaïque sur une bonne partie des toits des fermes de la forêt noire. Et résultat, non seulement ils sont complètement autonomes, mais ils revendent de l'énergie. Donc pour nous, c'était une vraie référence. Et donc nous, on l'a fait. Alors pour l'instant, à l'échelle de l'administration communale. Hein. L'administration communale, on est autonome, mais un des prochains développements, c'est d'associer nos concitoyens, nos entreprises, pour faire ce qu'on appelle une communauté locale d'énergie et de produire notre propre énergie, pourquoi pas avec des toits photovoltaïques, on en fait. On a un projet d'éolienne, mais en France, c'est un peu compliqué de développer les éoliennes parce qu'il y a beaucoup d'opposition, y compris dans l'administration.
Nous devons aller vers les économies renouvelables.
C'est ta connerie qui est renouvelable parce que ça fait un moment que tu te la trimbales. Hein.
Non, écoute, moi c'est bon, si tu commences comme ça, c'est moi qui vais me pencher là. Hein.
Oui, je l'ai déjà dit, le premier qui fout un pied sur mes terres pour y planter une éolienne, je le scalpe à la débroussailleuse et ça tombe très bien parce que je viens de la futaie la lame.
Voilà.
J'espère que c'est clair.
Alors Patrick Barbier, on est un peu environné, un peu plus loin donc, de champs de maïs, et vous avez réussi à préserver un peu tout ça. Bon, vous en avez un petit peu, et puis vous avez souhaité avoir cette boussole de nature, de biodiversité pour votre commune. Comment on s'y prend ?
C'est le produit d'une histoire récente, qui est l'histoire d'une maison de la nature à Muttersols, qui s'est implantée ici, qui il y a déjà 50 ans a sensibilisé tous les enfants et les adultes du village, et donc les agriculteurs aussi. Donc ici, les agriculteurs, ils ont une sensibilité naturaliste supérieure aux autres agriculteurs. Les agriculteurs ont préféré signer des contrats agri-environnementaux il y a déjà une trentaine d'années. Donc c'est grâce à des subventions publiques qui viennent de l'Europe, de l'État, de la région, du département, que les agriculteurs ont une petite compensation financière pour le différentiel. C'est sûr qu'avec du maïs, ils gagneraient plus d'argent. Là, avec la prairie, alors bien sûr, là aussi, notre chance, c'est qu'on a encore des éleveurs, parce que l'herbe, on ne la commercialise pas directement pour l'homme, ça passe par des vaches laitières la plupart du temps, ou des élevages de bovins à viande. Et c'est essentiellement le dialogue avec les agriculteurs qui permet de produire, parce qu'il n'y a aucune réglementation qui interdirait aux agriculteurs de mettre du maïs ici, quoi. La preuve, c'est que dans les villages à côté, bah, ils le font, quoi.
Et alors ici, donc, vous avez installé des agriculteurs qui sont bio principalement, ou est-ce que vous en avez 5?
Alors on a 5 agriculteurs, on en a 3 qui sont en bio, on en a 2 qui sont en agriculture de conservation et 1 en raisonnée, en agriculture dite raisonnée. Et donc ce qu'on fait sur les aires d'alimentation de captage d'eau, là on va pomper l'eau potable.
Donc on la protège.
On essaye de la protéger, alors pas en interdisant l'agriculture, ce qui serait ni souhaitable ni possible, mais en aidant les agriculteurs à faire des cultures bas niveau d'impact. C'est donc notamment le bio, mais ça peut aussi être d'autres cultures. On essaye de développer une filière chanvre, faire du chanvre pour l'isolation. On essaye de développer une plante qui s'appelle la sylphie, qui permet de méthaniser les bouts de stations d'épuration et qui est BNI. On essaye de développer des cultures de plantes comme la menthe, comme la reine des prés. On a une entreprise ici qui en fait des tisanes et des condiments. Voilà.
Et alors, ville éponge quand même ici.
Alors, autant le cœur de village que la cour de l'école, que les rues qu'on vient de rénover sont maintenant désimperméabilisées, c'est-à-dire que l'eau de pluie ne va plus dans les égouts, ce qui était une aberration, mélanger de l'eau propre avec de l'eau sale. Aujourd'hui, l'eau de pluie s'infiltre, soit directement, soit quand il y a des fortes pluies. Bah, si vous voyez, là, le terrain de sport, il est légèrement bombé.
Ah oui.
Et donc, l'eau ruisselle, là, dans les fosses des arbres. Et ça permet aux arbres de pousser vite et de faire aussi de l'ombre. Il y a du saule, il y a de l'aulne. Et ils aiment la flotte, donc ils poussent vite. Là, on les a plantés maintenant, il y a 3 ans. Vous voyez, le premier étage, il est déjà à l'abri des surchauffes. Il faudra encore attendre 1 ou 2 années pour le deuxième étage.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love.
Ah, j'adore parce que sur le panneau, il y a marqué gymnase 4 minutes à pied, 2 minutes à vélo. Pareil pour la maison des loisirs, école maternelle. Alors, c'est vrai que tout a été pensé quand même en mode doux. Alors comment fait-on, Patrick Barbier, pour éviter donc l'étalement urbain et faire de la densification ?
Quand on a décidé d'arrêter l'étalement urbain, parce que moi j'ai la grosse conviction que la protection de la nature, c'est par ça que ça commence, hein, c'est d'éviter de bouffer des terrains naturels, qu'ils soient agricoles ou forestiers ou espaces naturels en tant que tels.
Et donc, à l'époque, on s'était aussi rendu compte qu'on avait pas mal de logements vacants, alors même qu'on est un village sur lequel il y a beaucoup de demandes pour venir habiter. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de procrastination et de rétention de vieilles maisons. Et donc, on s'est demandé alors, comment on va faire pour motiver les propriétaires d'en faire quelque chose. Et c'est là que... Il y a eu l'idée de la taxe sur le logement vacant, c'est un peu le principe pollueur-payeur de l'agence de l'eau. Hein. Mais on a tout de suite, alors évidemment les propriétaires qu'on taxait, ils n'étaient pas contents, mais moi je leur disais toujours, mais l'argent qu'on vous prend là, on est prêt à vous le redonner si vous vous bougez. C'est-à-dire si vous transformez votre maison en logement ou si vous vendez, pour faire en sorte que le marché y bouge. Et ça a marché au-delà de toutes nos espérances. Et bien sûr, on amène des aides communales, mais aussi intercommunales, aussi départementales et de l'Agence nationale de l'habitat. Donc pour quelqu'un qui transforme son logement en locatif, c'est des aides qui peuvent monter jusqu'à 50% d'aide, ce qui est quand même substantiel pour un propriétaire.
Eh ben oui, donc on densifie à l'intérieur du village, parce que donc, plus on étale, eh ben plus ça va coûter cher à tout le monde, à la collectivité, à la commune. C'était ce système génial que l'on a vécu quasiment pendant 80 ans. Et là, ça bouge, c'est en train de bouger. Alors, il y a l'agence Rhineuse, il y a le SDEA, etc. On va poursuivre cette balade donc, avec Patrick Barbier dans quelques instants. Où est-ce qu'on va ? Là, je vois un jardin. Il est grand ou il est petit, celui-là ?
Jardin qui sentait bon le métropolitain, qui sentait bon le bassin parisien.
C'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin,
avec deux arbres, un pommier et un sapin.
Au fond d'une cour à la Chaussée d'Antin.
Mais un jour, près du jardin,
passa un homme qui au revers de son veston
portait une fleur de béton.
Dans le jardin, une voix chanta:
de grâce, monsieur le promoteur.
De grâce, préservez cette grâce.
De grâce, de grâce, monsieur le promoteur.
Ne coupez pas mes fleurs.
D'un souterrain
où sont rangés
comme des parpaings les automobiles du centre urbain.
C'était un petit jardin au fond d'une cour à la Chaussée d'Antin. C'était un petit jardin
au fond d'une cour à la Chaussée d'Antin.
Dutronc père et fils, eh ben écoutez, c'est pas mal du tout. C'est même peut-être mieux qu'avec simplement le père. Donc c'était le petit jardin.
Alors comment s'est passé le trimestre de notre petit prince ? Eh ben encore un trimestre compliqué pour Mathéo. Il a la moyenne dans aucune matière. Bah pourtant j'avais vu qu'il avait 6 de moyenne générale. C'est noté sur 20, monsieur. Il est très dissipé en classe et puis il a des grosses lacunes, même au niveau du langage. Enfin, à part les gros mots. Là, il est très développé.
CO2, mon amour.
Fait des fautes d'orthographe quand il doit écrire son prénom. Mais moi, je trouve ça déjà bien qu'à son âge, il prenne l'initiative d'écrire. Enfin, il a 13 ans, monsieur.
Avec Denis Chessou.
Ce matin, je lui ai demandé d'écrire la date au tableau, il m'a dessiné un soleil. Oh, c'est un artiste, que voulez-vous ? Et il a dessiné avec ses excréments. Et écolo, en plus de ça.
sur France Inter.
Oui, parce qu'en fait, on voulait en arriver là, bah, bien évidemment. Nous, c'est sur 20, c'est peut-être la note environnementale. Bon, bref. Alors, nous retournons donc à Muttersols, donc nous sommes toujours en Alsace. Vous avez d'ailleurs aussi, tiens, Matisse, ça c'est une entreprise de construction de bois qui se trouve dans la commune et qui a participé au JO, qui a fait le grand palais provisoire, la piscine à Saint-Denis. Vous allez entendre dans quelques instants Éric Brunissen, qui est chargé de mission LPO Alsace. Donc, on va parler avec lui de Trainbleu. Mais auparavant, où rentrons-nous ?
Voilà, maison de la nature. Et pour nous accueillir, Céline Vinault.
Bonjour.
Bonjour Céline. Alors, racontez-nous comment ça se passe, que vous faites un boulot de fond avec les enfants. Alors, ça a toujours été la vocation de cette maison de la nature. Alors, donc, vous-même, là, je vois que nous avons un très joli petit filet, mais qui est rigide, qui va peut-être servir quand même pour aller du côté de l'île et de la rivière.
Alors, cette épuisette ridienne nous sert à aller faire des petites pêches dans les mares aux alentours de la maison de la nature. Mais on l'utilise régulièrement à l'école maintenant, parce que grâce à la maison de la nature, on a mené un projet sur la construction d'une mare. Sur une année, on a mené un projet pour végétaliser cette mare. Nous avons attendu 2 ans que cette végétalisation se mette bien en place. Et nous avons étudié cette année notre mare, voir si avec les végétaux qui avaient bien pris racine, si notre mare était en bonne santé. Et donc cette petite épuisette était bien utile pour nos pêches au quotidien. Voilà.
Alors vous, en tant qu'institutrice, vous savez que ça se passe vraiment tout petit.
Parce qu'on sait très bien qu'il faut, dès le plus jeune âge, sensibiliser les enfants de notre territoire à la richesse de leur environnement, mais aussi à la fragilité de cet environnement.
Devinette, elle a quel âge cette mare ?
58 ans, elle a 88 ans, elle a un peu entre les deux quand même.
Elle n'a pas 2 ans.
Ah, ok.
Tu vois la résilience ?
Oh donc, là.
Là, c'est une... pas profond, hein, c'est pas profond du tout. Et donc, il y a moins de 2 ans, c'était juste un chantier. Aujourd'hui, regarde, on a l'impression que ça a été là tout le temps. Tant la nature, elle est résiliente. Hein. Les roseaux, là, notamment, ils poussent à une vitesse incroyable. Quoi.
Alors, quels sont les résultats maintenant qui sont tangibles ? Parce que ça, c'est une des premières réalisations, mais qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ?
Effectivement, la mare qu'on voit, donc il y en a une vingtaine qui ont été faites sur l'ensemble du territoire. Pour moi, les mares, c'est comme des points d'acupuncture sur l'espace et qui viennent stimuler l'ensemble du vivant sur le territoire. C'est comme redynamiser, redonner de l'énergie au vivant. Et les mares, le chapelet de mares, ça permet aux espèces de circuler. Et localement, ça crée une attractivité pour la faune. On voit des plantes qui réapparaissent. Il y a une dynamique fabuleuse.
Il y a quand même cette trame qui permet effectivement à la nature de circuler.
Une des choses qu'on a remarqué l'année dernière, en 2024, c'est le retour d'une espèce qui avait disparu depuis plusieurs décennies, qui est la rainette verte. Et donc, on leur a offert la possibilité de revenir grâce à ces trames bleues et de mares. Et on leur a offert l'habitat pour se reproduire, puisqu'on a eu plusieurs mares qui ont été occupées l'année dernière, qu'ils étaient carrément absents depuis 20-30 ans.
Hé, Rémi, c'est à ton tour. Le dernier halo est un tétard.
Ouais. Non, je trouve que c'est d'une très mauvaise idée.
Tu peux pas te noyer, t'es une grenouille.
T'as passé la moitié de ta vie à respirer sous l'eau.
Ouais, ben, tu sais ce qu'on dit, le changement... c'est bon pour l'humeur.
Ah ouais, c'est vrai. Ribbit n'aime pas nager.
Allez, Ribbit, tu peux faire.
Alors, ça a été dur à convaincre les gens en leur disant, attendez, on va laisser quand même un peu plus de place à la nature.
Ce qui permet une meilleure acceptation, c'est d'abord l'éducation que tout le monde a eue, mais c'est aussi la politique des petits pas. Là, on n'a pas fait les 30 mares en 2 ans. On a fait les 30 mares en 15 ans, l'une après l'autre, en commençant d'ailleurs plutôt par des petites. Au fur et à mesure, on en a fait des plus grandes. Et puis, au bout d'un moment, je ne veux pas dire que ça apparaît comme une évidence. C'est clair que les agriculteurs préféreraient pouvoir cultiver des plantes ici. Mais il y a une notion de compromis qu'ils ont bien compris, hein, parce que par ailleurs, quand on récupère des terrains qu'on avait loués à un agriculteur qui part à la retraite, on en garde pour la nature à peu près 15%. Les 85% qui restent, on les redonne à l'agriculture avec des conditions environnementales, bio, fauche tardive, etc. Mais ça permet quand même de faire de l'agriculture. Et au demeurant, ici, vous avez certes la mare,
On ne cultive pas encore de grenouilles ici. Mais par contre, la prairie, là, c'est de l'herbe, c'est du foin pour les agriculteurs. Certes, de manière tardive, avec des conditions environnementales, mais c'est quand même une production pour eux. Entre nature et agriculture, il y a une contradiction quand même assez forte. C'est que l'agriculture, en gros, sur un champ, veut cultiver une plante. La nature, sur la même surface, elle pourrait
50,
produire
60, 70.
Presque une centaine. Ouais. Si on compte les insectes, on est à une centaine d'espèces. Quoi. Donc forcément, on voit bien là, la tension qu'il y a entre les deux. Et ça, il faut le prendre en compte. Il faut comprendre que l'agriculteur, bah oui, il veut récolter une plante. Mmh. C'est son revenu. Il a sa famille à nourrir. Et donc ça, il faut le prendre en compte. Quoi.
Bonjour Léon.
Bonjour à vous.
Vous avez un beau jardin, hein?
Tu verrais, alors aujourd'hui, les tomates sont enlevées, mais là, il y avait, je ne sais pas, combien de pieds de tomates ? Centaines. Centaines, hein.
Oh, d'accord. Eh bien, bonne journée à vous.
Merci de même.
Merci.
Elles sont partout. Sur le couvent, les cheminées ou même les arbres coupés, les cigognes font le bonheur des habitants.
C'est beau la cigogne quand même, avec ses longues pattes rouges et tout. Il y a une élégance quand même sur la cigogne.
Il y a 20 ans en arrière, on n'en avait qu'un nid. Et après, d'un seul coup, sur 2 ans, tout le village était plein.
J'aime bien entendre leur clacotis.
Clacotis ou plutôt craquettement qui fait ?
Oh, dites donc, là, je suis cigogne. Bon, je suis alsacienne. Là, je vois au moins 2 nids, là.
Ah bah, des fois, on en trouve 3 ou 4.
Sur la même maison ?
On était le village, là, à la fin du XXe siècle, on était un des derniers villages à avoir un nid de cigogne. Aujourd'hui, on en a, cette année, exactement 52. On les compte avec la LPO. Donc 52, ça veut dire, au mois de juin, on a 200 cigognes. C'est un vrai spectacle.
On rentre dans un autre lieu, là, Patrick. Forêt Sanctuaire. Donc on est toujours sur votre commune. Qu'est-ce que c'est ?
C'est la forêt communale. Et c'est devenu un cimetière. Géré comme un cimetière classique, mais uniquement pour des urnes avec les cendres des défunts. Donc ces urnes peuvent être mises au pied des arbres. On peut en mettre théoriquement 12 à chaque heure du cadran horaire. On peut mettre une urne autour de l'arbre. Alors avant d'arriver dans le site proprement dit, là on a aménagé un petit lieu de cérémonie. C'est un peu mégalithique, hein. J'ai toujours un sentiment très réjoui quand je pense à la tête des archéologues dans 3000 ans qui tomberont sur ce site, le dateront de 2023 et qui là auront du mal à comprendre. Ouais. Voilà. C'est du gré des Vosges, c'est convivial, c'est surtout très pérenne, on n'a aucun entretien à y faire. Et là, bien sûr, c'est un site complètement laïque, vous voyez qu'on n'a pas mis de croix, donc il peut y avoir des chrétiens, des musulmans, des juifs, ou des gens qui n'ont pas de convictions religieuses. Et donc le site lui-même, là vous avez le plan, et sur le plan il y a donc les arbres, il y a 3 catégories d'arbres. Les gros arbres, c'est la lettre C, les arbres moyens B, et les petits arbres, ça peut être des CP de noisetier, la lettre A. Et donc autour de chacun de ces arbres, on peut mettre donc 12 urnes. D'accord. Et ça, c'est au choix des familles qui choisissent leur lieu. Il y a une tarification, il y a une concession sur 30 ans. On a choisi de faire les mêmes prix que dans le cimetière classique pour qu'il n'y ait pas de choix réglementaire. Là, vous voyez le schéma théorique. Alors quand je dis pourquoi je dis théorique, parce que si on tombe sur une racine de l'arbre et quand on veut creuser trou, on tombe sur la racine, on n'insiste pas et tant pis, il n'y aura que 10 positifs.
Au lieu de 12,
c'est pas bien grave. Non
et ce sera 10 à la douzaine.
Donc, voilà. C'est ça, vous voyez que la forêt est grande ici, on a largement de quoi faire. Hein. Une des obligations réglementaires, c'est le fait que le site soit clos. Voilà notre interprétation de la clôture. On n'imaginait pas de mettre des murs, mais je pense qu'on est dans l'esprit. On est dans l'esprit du législateur. C'est juste pour montrer quand est-ce qu'on rentre dans le site un peu sanctuaire, un peu sacré. Le marquage des arbres, il est plus que discret. Il faut vraiment le savoir. Ouais, le marquage des arbres, en fait, il est fait pour que les familles puissent retrouver l'urne de leur grand-père, de leurs parents. Et donc là, c'est un gros arbre. Et là, voilà.
Patrick,
Patrick Barbier, que peut-on vous souhaiter ?
Que ce qu'on essaye de faire à Muttersol se développe un peu partout. Nous, ce qu'on montre ici, c'est que c'est possible, que finalement, il y a très peu d'opposition, pour peu qu'on fasse les choses dans le dialogue de manière progressive. On arrive à faire en sorte que presque tous les enfants viennent à pied ou à vélo à l'école, qu'on recrée des trames vertes conséquentes dans l'espace agricole, qu'on soit quasiment autonome du point de vue énergétique. Et tout ça, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas ailleurs. Pour l'énergie, il y a des énergies renouvelables partout. Faire des circulations douces, c'est possible partout. Et le dialogue avec les agriculteurs, c'est aussi pour peu qu'on y prenne le temps, qu'on ait de la considération réciproque, ça marche aussi. Le ZAN, là, on démontre complètement que ça marche, puisqu'on est le seul village de l'Alsace centrale qui continue à augmenter sa population alors qu'on a arrêté de faire des lotissements. Donc on fait vraiment la démonstration que le ZAN, c'est pas du tout une aberration, c'est clairement le sens de l'histoire.
À très bientôt, merci à vous Patrick.
Merci Denis et à bientôt aussi.
Merci Éric Brunissen, à Patrick Barbier. Et voilà, avec cette capitale française de la biodiversité, ce label 2025 est extrêmement bien mérité. Et puis je salue aussi Jean-François Hoth, mon collègue des dernières nouvelles d'Alsace. La semaine prochaine, on va découvrir un géoparc. Oui, on va aller dans les Alpes de Haute-Provence. Merci à Juliette Orphelin, à Camille Blanès, à Xavier Pessugia qui a colorisé, qui a trouvé tous les sons de cette émission. Merci Xavier. Et puis on se retrouve sur Instagram, sur LinkedIn, Blue Sky, l'application Radio France. Alors abonnez-vous au podcast de CO2 Mon Amour en entier et aussi des éditos si vous le souhaitez. Allez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, évidemment, une bonne fin de dimanche.